Chanson d'eau douce, Simon Rico.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans la série musicale d'été. Toute cette semaine, je vous embarque pour 5 croisières sonores le long des grands fleuves. Un voyage au fil de l'eau, à bord d'embarcations diverses, pirogues, jonques, felouques, pinasses ou stern-wheeler à la voile, à la rame ou à la vapeur. Pour ce cinquième et dernier épisode, nous partons dans le sud-est de l'Asie, un long voyage qui serpentera du nord de l'Himalaya jusqu'à Saïgon au sud du Vietnam, via le Laos, la Thaïlande et le Cambodge.
Monsieur Edmond Blanc, jeune explorateur français, revient d'une région presque inconnue du globe, le Haut Mékong, où il a effectué un voyage d'études fort aventureux. À notre micro, il veut bien se laisser interviewer par l'un de nos collaborateurs.
Votre route pour parvenir dans cette province fut-elle difficile, fut-elle pénible?
Non, nous n'avons pas rencontré de grandes difficultés. Cependant, dès notre arrivée à Saïgon, il y avait des inondations qui nous obligeaient à reprendre le bateau pour gagner Touran. De là, par la route de la Reine Astrid, cette magnifique route qui a été créée en pleine montagne, nous gagnons Luang Prabang. Là, nous rencontrions de plus grandes difficultés, puisque nous étions obligés de prendre le Mékong. Le Mékong, dans cette partie de son parcours, a un cours extrêmement rapide, et on l'a dénommé le fleuve aux 100 000 cadavres.
Mais pourquoi 100 000 cadavres?
À cause des nombreux accidents qui sont arrivés au cours des diverses recherches qu'on a faites dans cette région.
Long de 4350 km, le Mékong n'est pas le plus grand fleuve d'Asie, dépassé par les deux géants chinois, le Yangtze-Kiang et le fleuve jaune, et ce n'est pas non plus celui qui a le plus important débit, avec ses 16 000 m3 par seconde, il est là encore devancé par le Yangtze et le Brahmapoutre indien. Mais le Mékong peut se targuer d'être le plus international des fleuves asiatiques. De sa source sur les hauteurs de l'Himalaya à son delta sur la mer de Chine, il traverse 6 pays, Chine, Birmanie, Laos, Thaïlande, Cambodge et enfin Vietnam. Son bassin versant de 810 000 km², surface modeste pour un tel géant, loge environ 90 millions d'habitants appartenant à plus de 100 groupes communautaires, un peuplement bien moins dense que celui des autres grands fleuves asiatiques. C'est aussi le seul fleuve de l'Himalaya dont le cours inférieur est barré par des chutes et de nombreux rapides. Sans compter ses considérables variations saisonnières entre la saison sèche et la mousson. Autant d'obstacles à la navigation qui interdisent d'utiliser le Mékong pour commercer avec la Chine méridionale, comme l'avait pourtant espéré la Commission française d'exploration au milieu du 19e siècle. Dans l'imaginaire français, on a d'ailleurs tendance à réduire le Mékong à sa partie colonisée, qui remontait jusqu'au nord du Laos, à la frontière avec la Birmanie. Là où le fleuve est devenu un cours d'eau tropical, s'écoulant au milieu d'une végétation impénétrable, véritable usine à fantasmes pour les étrangers, d'Apocalypse Now à Indochine.
Do you?
Le Mékong prend sa source à 5000 mètres d'altitude au nord du plateau tibétain, dans le Qinghai, zone balayée par les vents et les rafales de neige, où la végétation se réduit à des basses herbes. Les eaux du Yangtze et du fleuve jaune s'écoulent aussi de ces sommets et la Chine y a créé une grande zone protégée pour lutter contre la désertification. Ici, le Mékong s'appelle Lansangkiang, le fleuve turbulent, à cause de ses eaux furieuses qui dévalent les montagnes. Son nom de Mékong, mer de tous les eaux, lui a été donné par les populations Thaï réparties sur la majeure partie de son bassin. Découvert par le portugais Antonio de Faria en 1540, le fleuve a longtemps conservé un parfum de mystère pour les Européens. Quelques explorations sporadiques furent menées par Lisbonne et Madrid et le néerlandais Gerrit van Voistoff remonta jusqu'au sud du Laos au milieu du XVIIe siècle, mais il fallut attendre la mission française de 1866-68 pour atteindre le Yunnan en Chine et ce n'est qu'en 1900 que le russe Piotr Kozlov a déterminé sa source. Du fait de sa navigation difficile, le Mékong joue avant tout un rôle de frontière plus que de lien entre ses riverains. Cela s'est particulièrement vérifié après les indépendances et l'instauration dans les violentes années 70 de régimes autoritaires antagonistes, communistes en Chine, au Vietnam, au Cambodge et au Laos, militaires en Birmanie et en Thaïlande. Dans le royaume Siam pro-occidental se développait alors une pop sous influence américaine, conséquence de 10 années de guerre au Vietnam et de GIs stationnés dans les bases arrières. Depuis la ville chinoise de Zado, il faut parcourir une piste à travers les grandes steppes himalayennes durant 7 heures pour atteindre Zasichiwa, la source sacrée du Mékong au milieu de nulle part. Gonflé par les neiges, le torrent s'enfonce bientôt dans de profondes gorges au cœur d'une zone militaire et il n'est plus possible de le suivre. Ici, les gens l'appellent Zachou, l'eau des rochers, mais sa couleur ocre serait plutôt celle des boues qu'il charrie. Au milieu milieu du 19e siècle, après les guerres de l'opium, des prêtres des missions étrangères de Paris furent envoyés par le Vatican sur ces terres bouddhistes du Tibet pour les évangéliser. Confrontés à l'hostilité des lamas et de la population, ils durent se replier dans la vallée du Mékong avant d'être rejoints plus tard par les aumôniers suisses du Grand Saint-Bernard. Pour produire le vin de Metz, ils plantèrent des vignes dont un cépage inconnu ailleurs, baptisé Rose Honey. Si les moines européens furent chassés au début des années 50 par les nouvelles autorités communistes, une petite communauté de fidèles catholiques a réussi à se maintenir ici, retrouvant même un peu de vigueur ces dernières décennies. Dans les années 2000, d'autres missionnaires français sont arrivés dans le Yunnan, les tuffeurs d'Expedisand, avec l'envie de créer des ponts entre le répertoire traditionnel des Naxi tibétains et les musiques électroniques. Était jusque récemment le dernier des grands fleuves libres du monde, plusieurs décennies de conflits ayant empêché la construction de barrages ou autres grands aménagements sur son cours. La République populaire de Chine fut la première à s'intéresser à l'immense potentiel électrique du turbulent Lanzhangjiang pour soutenir les quatre modernisations initiées par Deng Xiaoping. En 1986, la construction d'un premier barrage a débuté dans le Yunnan. Il y en a désormais 64 en service sur tout le Mékong, et 33 sont en construction, plus 200 en projet. Cette bétonisation du cours du Mékong aurait provoqué le déplacement d'un demi-million de personnes et suscite de vives tensions internes et internationales. À la saison sèche, le manque d'eau se fait de plus en plus criant, mettant en danger la survie même des riverains du fleuve. 80% d'entre eux dépendent de ces ressources pour vivre. Avec près d'un quart des prises mondiales, le Mékong est la première zone de pêche en eau douce au monde, une activité aujourd'hui en recul à cause de ces barrages. Le contrôle des eaux du Mékong est donc un enjeu géopolitique régional majeur. Créée en 1995, la commission du Mékong est censée promouvoir une gestion intégrée des eaux et des ressources du fleuve, mais cette instance se révèle bien faible face aux puissants intérêts nationaux. À ce petit jeu, la Chine se trouve en position de force de par sa position en amont et ses colossaux moyens financiers qui lui permettent de financer d'autres aménagements, notamment au Laos, qui ambitionne de devenir la pile électrique du Mékong. En 1981, un exilé laotien, Soti, sortait à Paris son unique 45 tours sur un label punk avec en face A ce Lamsung psychédélique. Il pénètre dans la province autonome de Sipsong Bana, la plus méridionale de Chine, le Mékong a déjà dégringolé plus de 4000 mètres de dénivelé en un peu moins de 1500 km. Avec son climat tropical, sa jungle luxuriante et ses champs de canne à sucre, le Sipsong Bana ressemble déjà au pays que s'apprête à traverser le fleuve jusqu'à son delta. Si la région accueille de nombreux peuples, les Dai sont les plus nombreux. Ils parlent le Taïlou et sont très proches des Thaïs qui habitent tout le pourtour du Mékong. Leur nouvel an en avril est d'ailleurs une déclinaison du célèbre Songkran thaïlandais, cette grande fête bouddhiste de l'eau qui s'étend sur 3 jours. À Jin Hong, le chef-lieu du Sipsong Bana, un marché géant se tient le premier jour sur les berges du Mékong, puis des courses de bateaux-dragons ont lieu sur le fleuve le deuxième avant l'apothéose le troisième jour quand les participants s'arrosent pour rendre hommage à Pramae Torani, la déesse de la terre qui tordit sa chevelure pour en faire jaillir des torrents d'eau capables d'engloutir les armées du démon. Après avoir quitté le pays chinois des Dai, le Mékong sert de frontière sur un peu plus de 200 km, séparant le Laos à l'est et la Birmanie à l'ouest, une zone quasiment vide à 1000 mètres d'altitude où le fleuve serpente au milieu de la jungle. Nous voilà bientôt arrivés au confluent avec la Ruak, qui marque l'entrée du sulfureux triangle d'or, cette zone frontalière entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, qui fournissait les deux tiers de l'opium mondial pendant les premières décennies de la guerre froide. Un trafic favorisé par la France, puis les États-Unis, notamment pour financer leurs opérations militaires secrètes. Aujourd'hui, le Triangle d'Or reste l'une des trois principales zones de production de drogue au monde, avec l'Afghanistan et la Colombie. Le trafic se concentre en Birmanie, dans la région séparatiste Wa, mais depuis les années 90, plus que l'opium, ce sont surtout les amphétamines qui ont la cote moins chère et plus facile à produire. Pour blanchir l'argent de ce narcotrafic, pas besoin d'aller bien loin. De l'autre côté du Mékong, dans les casinos du Laos communiste, ce nouveau Macao où les touristes chinois viennent claquer leur yuan, eux qui sont privés de jeux d'argent dans leur pays. Une zone économique spéciale, isolée du monde, où tout est permis, même de servir du tigre dans les restaurants. Comme le chante le birman Sain Satin, il se passe ici des choses vraiment bizarres.
ဟုတ်ပါမင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမင်းခင်ဗျာတို့ရေအရှိပါဦးပါမင်းနိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တဲ့လောက်ကြတာအင်မတမ်းပါရတာပြေဆုံးမောင်ရဟုတ်ပါဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့ဆိုတာပေါ့ကွာမှန်တော့စကားအေးမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတစ်ပုတ်တည်းပဲနားထောင်နားထောင်တယုတ်ကွဲအောင်နားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးများအောင်ဖန်တီးထားတာကောင်းရဲ့လားဘယ်နေရာမှလိုအပ်သေးတယ်လဲလို့ခွဲခွ
Après avoir dépassé le triangle d'or, le Mékong change bientôt de direction et se dirige vers l'est, vers l'intérieur du Laos, puis bifurque de nouveau vers le sud, quelques kilomètres en amont de Luang Prabang, l'ancienne capitale du Langzang, le royaume du million d'éléphants. Ce port fluvial de 50 000 habitants a conservé un air provincial en dépit de son statut administratif, dépourvu notamment d'industrie moderne. Son nom lui vient d'une statue précieuse de Bouddha, le Prabang, arrivé du Sri Lanka au milieu du XIVe siècle. Ses nombreux temples et monastères bouddhistes témoignent de la ferveur qui continue de régner dans ce carrefour de vallées convergeant depuis le nord et l'est du Laos. Mais la ville est aussi célèbre pour sa riche architecture coloniale française, héritage du protectorat imposé par Paris à la fin du XIXe siècle au Petit Royaume. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le milieu des années 90, Luang Prabang est aujourd'hui une étape majeure des croisières sur le Mékong. Mais durant la guerre du Vietnam, ce fut une zone d'âpres combats entre la guérilla communiste soutenue par le Viet Cong et le gouvernement royal appuyé par les Américains. Une célèbre chanson anti-guerre de Patrick Sky se rappelle le sacrifice des GIs dans ce terrain hostile si loin de chez eux.
When I came back from Luang Prabang, I didn't have a thing where my balls used to hang, but I got a wooden medal and a fine harangue, and now I'm a fucking hero. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me. And now the boys all envy me. I fought for Christian democracy with nothing but air where my balls used to be. But now I'm a fucking hero. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me. The 120 cannon thunder into the bloody wild blue yonder for a patriotic ballless wonder. Now I'm a fucking hero. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me. In Loing Prabang there is a spot where the corpses of your brothers rot, and every corpse is a patriot, and every corpse is a hero. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me. Mourn your dead land of the free. If you wanna be a hero, follow me.
Musicalement, Luang Prabang, ce n'est pas que la guerre du Vietnam, évidemment. C'est aussi le siège d'un répertoire classique réservé à la cour, le Pun Muang, considéré par les ethnomusicologues comme l'un des mieux préservés de l'arc Khmer. L'octave y est divisée en 7 intervalles réguliers, sans dièse ni bémol, une échelle mélodique que les hindous qualifiaient de céleste. Un style populaire laotien, le Kab Tum, s'est aussi développé spécifiquement dans la région de Luang Prabang, mêlant hymne à la nature, histoire d'amour et référence nostalgique à l'ancienne monarchie. En voilà un exemple orchestral avec un jeu de questions-réponses entre les chanteurs, les mains qui claquent à contre-temps et l'accompagnement du Nang Nahe, le xylophone asiatique, des vielles soy et d'un petit tambour, le tapon. Après Luang Prabang, le Mékong poursuit sa descente vers le sud, puis braque à l'est, 200 km plus loin. C'est là qu'il retrouve son rôle de frontière, séparation entre le Laos et la Thaïlande. Les Laos, le peuple majoritaire qui a donné son nom au pays, se sont installés sur les deux rives du Mékong, repoussant les autres communautés sur les hauteurs. Moins puissants néanmoins que leurs voisins siamois, ils ont fini par perdre la rive droite du fleuve, qui forme aujourd'hui le nord-est de la Thaïlande. Vientiane, unique capitale depuis la mise en place du régime communiste en 1975, est le témoin de cette histoire défavorable au Laos. Fondée au milieu du XVIe siècle, la ville fut conquise par les Birmans, puis le siège d'un éphémère royaume, avant d'être prise par les Siam et rasée en 1827 à la suite d'une rébellion. Vientiane fut ensuite rebâtie par les Français, qui en firent le chef-lieu de leur protectorat à la fin du XIXe siècle. Ce bourg de 9000 habitants après la Première Guerre mondiale en compte aujourd'hui près de 700 000, mais Vientiane reste une modeste capitale comparée aux immenses métropoles littorales des pays voisins. En 2013, un pont a finalement ouvert, nommé en l'honneur de l'amitié lao-thaïlandaise pour rejoindre Nong Khai. Mais quelle que soit la rive du Mekong, ici, tout le monde vibre au son du molam. Sur la rive droite du Mékong s'étend donc un ancien territoire du royaume laotien gagné les armes à la main par le Siam au XIXe siècle. C'est aujourd'hui la province de Lisan qui occupe tout le nord-est de la Thaïlande, région pauvre et rurale. Ici, la population est majoritairement lao et le pouvoir de Bangkok y a mené une intense politique de thaïfication forcée tout en maintenant la zone dans un sous-développement chronique. Sur ces 160 000 km², on compte à peine deux lignes de chemin de fer et bien des routes ont été goudronnées dans les années 60-70 pour se faciliter l'accès aux bases arrières américaines. En argot thaï, les habitants de Lisan sont surnommés les buffles d'eau, sobriquet méprisant qui fait référence à ces bêtes de trait qu'utilisent encore de nombreux paysans dans les rizières. Face à ces multiples vexations, les Laos de Lisan ont plusieurs fois cherché le soutien d'opposants aux militaires et à la monarchie, les communistes dans les années 60-70 ou plus récemment le controversé Premier ministre Thaksin Shinawatra. Les rives du Mékong, dans l'Isan comme au Laos, sont bercées par le molam, on l'a dit, musique lao qui serait née au XVIIIe siècle. Ce genre s'accompagne traditionnellement de trois instruments locaux, le pin, guitare à trois cordes à la tête sculptée, le ken, orgue à bouche en bambou, et le sor, sorte de violon à une corde. Vocalement, le genre se décline en une série de lames, c'est-à-dire de mélodies chantées qui se sont structurées au fil du temps et donnent l'impression d'une logorée presque rappée. Après Vientiane, le Mékong continue de séparer le Laos de la Thaïlande sur plus de 500 km sans qu'un seul pont ne le franchisse. C'est sur cette portion de fleuve que survient le phénomène inexpliqué des boules de feu des Nagas à la fin de la saison des pluies durant le mois d'octobre. La légende attribue ces feux follets au serpent Naga, créature du monde souterrain hindouiste très présent dans l'Arc-Mer, qui aurait offert à Bouddha sa protection sur les eaux. Au sud, à quelques encablures du Cambodge, le Mékong se divise et laisse place à un chapelet d'îlots entre ses deux bras, distant d'une petite dizaine de kilomètres, c'est le Sipandon, les 4000 îles en Lao. En réalité, il n'y en a que quelques centaines, autant de petits paradis devenus ces dernières années l'une des principales attractions touristiques du Laos. En aval de l'archipel, les majestueuses chutes de Koné marquent la séparation entre les deux principaux biefs du Mékong, haute de 21 mètres, large de plus d'un kilomètre, ce sont les plus grandes d'Asie du Sud-Est et les croyances locales prétendent qu'elles représentent une barrière naturelle contre les esprits malveillants. Soucieux de contrôler le Mékong, pour protéger l'intérieur de l'Indochine, les Français y construirent, dès leur arrivée, un petit chemin de fer destiné à faire remonter leurs canonnières de l'autre côté. Une prouesse qui leur permettra ensuite d'établir les messageries fluviales reliant Saïgon à Luang Prabang. Quelques chansons coloniales témoignent de cette époque, quand l'imaginaire exotique était aussi raciste que sexiste.
C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. Il y en a d'autres qui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Le soir on cause de tas de choses avant de se mettre au pieu. Je lui apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, qui arrose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son adamite. Je suis vive, je suis charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan Kiki, Satan Kiki, Satan Kinoise. Il y en a d'autres qui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Très gentille, je suis la fille d'un mandarin très fameux. C'est pour ça que sur ma poitrine, oui, j'ai deux petites mandarines. Peu gourmande, je ne demande quand nous mangeons tous les deux qu'une banane, c'est peu coûteux. Il m'en donne autant que je veux. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan Kiki, Satan Kiki, Satan Kinoise. Il y en a d'autres qui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
Encore 300 kilomètres et nous voilà déjà arrivés à Phnom Penh. La capitale cambodgienne s'est établie sur un site remarquable, la plaine des Quatre Bras, point de convergence du Mékong, des eaux du lac Tonlé Sap, du bras principal du Mékong en aval et du Bassac, premier bras secondaire du Delta. Devenue capitale en 1860, la ville se développe et se modernise durant la colonisation française. C'est alors la perle de l'Asie avec ses canaux et ses bâtisses art déco. Phnom Penh compte 2 millions d'habitants, dont de nombreux réfugiés des guerres qui ont secoué l'Indochine quand les Khmers rouges la conquièrent en 1975 et la vident brutalement en voyant ses urbains travailler de force dans les fermes censées inventer l'homme nouveau. La plupart n'en sortiront pas vivants et la ville, abandonnée durant 4 ans, devra attendre la transition libérale actée par les accords de Paris en 1991 pour voir sa reconstruction s'accélérer. Aujourd'hui, c'est une métropole à l'urbanisation de moins en moins contrôlée dont la population a fini par dépasser son maximum atteint 4 décennies plus tôt. À l'époque, Phnom Penh regardait vers l'ouest et sa jeunesse dorée post-indépendance se trémoussait au son du cha-cha ou du jerk. La plus grande vedette de l'époque s'appelait Sin Sisamut, crooner toujours impeccablement mis, raie sur le côté gominé, smoking sombre et nœud papillon au ras du cou. La maîtrise de l'eau a été un élément clé de la fondation de l'Empire d'Angkor sur le bord du Tonlé Sap, plus grand lac d'eau douce d'Asie au nord de Phnom Penh. Fonctionnant comme un réservoir, le Tonlé Sap récupère le trop-plein des eaux du Mékong durant la mousson jusqu'à voir son volume sextuplé, puis en saison sèche, il se déverse dans le fleuve. Ce phénomène unique de retournement des eaux a permis au royaume Khmer de créer un vaste réseau hydraulique de canaux alimentés par des bassins et de nourrir une population urbaine qui aurait atteint près d'1 million d'habitants, faisant d'Angkor l'une des plus grandes métropoles mondiales entre le 9e et le 15e siècle. L'effondrement fulgurant de cette civilisation reste une énigme pour les archéologues. Si des missionnaires portugais avaient visité le site dès la fin du XVIe siècle, c'est sa redécouverte par les missions françaises après 1860 qui alimentera la fascination de l'Occident pour cette civilisation oubliée et aboutira au déclenchement de campagnes de fouilles. Les Khmers rouges exploiteront ensuite le prestige du royaume d'Angkor à des fins politiques. Ils feront figurer la silhouette du temple principal sur leur drapeau et prétendront s'en inspirer pour imposer leurs réformes agricoles qui se soldent par de terribles famines. En 1983, le Front National de Libération du Peuple Khmer sortait son unique album enregistré à Singapour, un disque de maquisards réclamant la liberté pour le Cambodge, oppressé par les Khmers rouges comme par les Viet Cong venus les chasser du pouvoir. En arrivant au Vietnam, le Mékong se sépare bientôt en un vaste delta formé de 9 bras, les Kuulong, les 9 dragons, dont chaque bouche crache ses eaux et ses alluvions dans la mer de Chine ou de l'Est, comme le disent désormais les Vietnamiens pour des raisons très diplomatiques. Grenier aride du Vietnam, après avoir été celui de l'Indochine, le delta du Mékong est une immense zone humide, grande comme 5 fois l'île de France, labyrinthe de canaux et d'étroites bandes de terre où vivent près de 20 millions d'habitants. Les maisons sont sur pilotis comme presque tout le long du fleuve, les marchés souvent flottants et l'on s'y déplace surtout à deux roues ou en bateau. Sa population a doublé en 50 ans et cette pression démographique, accompagnée d'une intensification de la production agricole, rizicole et piscicole, fait déjà des ravages sur ce fragile écosystème en état de stress. Le cauchemar de la famille Duras d'embarrage contre le Pacifique est en train de se généraliser pour les agriculteurs du Delta, alors que celui-ci ne cesse de s'affaisser, laissant les eaux salées remonter jusqu'à 140 km à l'intérieur des terres. En cause, les nombreux barrages qui retiennent les sédiments en amont et le dragage du fond du Delta du Mékong pour y collecter le sable nécessaire au béton. De cette chanson des années 60, Tan Lan décrivait encore une forêt luxuriante, remplie du bruit du vent et du chant des oiseaux, une nature qui disparaît peu à peu sous les coups de pelleteuses.
Bao nhiêu chim chóc tung bừng đây sau giấc đêm dài triền miên triền miên. Rừng xanh lên bao sức sống, ngàn cây xuân sao đó hương nồng của vương thái dương hồng bừng lên trời đông. Cỏ cây vươn vai lên tiếng, cùng bao nhiêu chim chóc tung bừng đây sau giấc đêm dài triền miên triền miên. Chúng vơi gió đi xa về rực rỡ rực rỡ tình chan chứa gió vi vu vi vu suối xa in như du lá cây xuôi dòng ngưng 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 xuôi về đâu bình minh xuyên qua khe núi nguồn vui theo tia nắng để rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi và thiên nhiên như đôi mới rừng xanh vươn cao ngát cùng đời mình mang khắp nước trời ngàn lời đẹp tươi.
Durant la guerre, l'armée Viet Cong ne s'est jamais vraiment aventurée dans le delta du fleuve, n'attaquant Saigon que deux fois, en 1968 lors de l'offensive avortée du Tet, puis en 1975 quand ses troupes prirent la ville, bataille qui acta sa victoire sur le Viet Minh. Hanoï la prude a vaincu Saigon la putain, comme l'avait déjà dit 21 ans plus tôt certains colons français amers au moment de plier bagages. Ancien village de pêcheurs Khmer, devenu au XVIIe siècle une ville vietnamienne sous l'impulsion des empereurs Nguyen, Saigon a vu son importance croître à l'époque coloniale quand elle était la porte d'entrée de l'impérialisme français. La cité, au nid des communistes, sera rebaptisée Ho Chi Minh-ville en l'honneur de leur leader. Forte de plus de 8 millions d'habitants, c'est toujours la capitale économique du Vietnam où se concentre environ un quart du PIB national. La métropole du Sud profite à plein du Do Moi, le virage libéral du régime communiste acté dès le milieu des années 80 et accéléré par la crise financière asiatique de 1997. C'est le retour des nuits magiques, comme dans les 60s, celles que chantait Phuong Tam, alors même que la guerre faisait rage dans le reste du Vietnam.
Yeah.
La scène rock de Saïgon était alors en pleine effervescence, boostée par la présence des soldats américains. Elle a vite été engloutie par le régime communiste qui a pris soin d'en éliminer toutes les traces, vinyles, affiches ou photos, autant de témoignages d'une époque révolue aujourd'hui rarissime. C'était Chanson d'eau douce, une émission proposée par Simon Rico et réalisée par David Jacoboviez. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Bujon. Vous retrouverez toutes les références des morceaux que nous avons diffusés, une playlist et une série de recommandations sur franceculture.fr. Merci à Romain Couturier et Antoine Vuillose de la discothèque de Radio France, aux documentaristes de l'INA ainsi qu'à Camille Cazot pour la mise en forme de notre page internet. La semaine prochaine, à ce micro, Natacha Triou pour sa série musicale « La fleur de l'âge ».